Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, mardi 18 juin 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, Nigeria, une base militaire prise d'assaut par des hommes soupçonnés d'appartenir à la faction du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Plus de 300 000 personnes ont fui les violences interethniques en Ituri, dans le nord-est de la RDC. L'ONU réclame une enquête après la mort en Égypte du président déchu Mohamed Morsi. Et en magazine, nous parlerons des Américains accidentels. Ils ont toujours vécu à l'étranger, mais sont nés aux États-Unis et étaient contraints de payer les taxes en tant qu'Américains. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Bénin, le procureur de la République annonce une mesure de coercion contre l'ancien président Yayi Boni. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse ce mardi à Cotonou. Les précisions de notre correspondante au Bénin, Ginette Fleuradandé.
L'impossibilité au juge d'écouter l'ancien président Yayi Boni est au cœur de cette sortie médiatique du procureur de la République. Mario Metonou affirme que selon les faits en sa possession, Yayi Boni est impliqué dans les manifestations violentes des 1er et 2 mai à Cotonou. Il déplore le refus à deux reprises de l'ancien président d'être auditionné malgré les précautions prises pour respecter son statut d'ancien chef d'État. Le juge s'était rendu deux fois au domicile de l'ancien président mais n'a pas pu le rencontrer. Les avocats de Yayi Boni ont opposé une fin de non-recevoir brandissant un certificat qui précise que l'ancien président souffrait d'une maladie.
Il est à préciser que la décision du juge d'auditionner M. Boni Yayi à son domicile, au-delà de ce qu'elle est prévue par la loi, procède d'usages établis qui tirent le fondement des égards dus à son rang. Auparavant, M. Boni Yayi, alors président de la République, avait été entendu à la présidence de la République par un juge d'instruction.
64 personnes ont été inculpées suite aux manifestations post-électorales. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Des membres présumés d'une branche de Boko Haram ont envahi une base militaire et pillé une ville dans le nord-est du Nigeria. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Abdourahmane Dia.
Des hommes soupçonnés d'appartenir à la faction du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont pris d'assaut hier soir une base militaire située à 80 km de Maïdougouri. Arrivés à bord de 9 pick-up, ils ont délogé les soldats de la base après des combats, a déclaré une source sécuritaire. Les djihadistes sont ensuite entrés dans la ville de Gadjiram où ils ont pillé des magasins et tiré des coups de feu en l'air, obligeant les habitants à se réfugier dans leurs maisons ou à fuir en brousse. Ces habitants indiquent avoir vu ce matin des soldats revenir vers la ville depuis la brousse après avoir fui durant l'attaque. Des dizaines de bases militaires ont ainsi été attaquées depuis un an par la faction affiliée au groupe État islamique. Dimanche, au moins 30 personnes ont été tuées et 40 blessées à Kondunga dans un triple attentat suicide attribué cette fois à la faction loyale à Aboubakar Shekau, le leader historique de Boko Haram.
Le Cameroun observera vendredi une journée de deuil national pour saluer la mémoire de 17 soldats tués récemment dans le nord du pays dans une attaque de djihadistes de Boko Haram. Dans la nuit du 9 au 10 juin, plus de 300 combattants lourdement armés avaient attaqué la localité de Darak, selon le gouvernement. En République démocratique du Congo, plus de 300 000 personnes ont fui les violences interethniques dans le nord-est du pays au cours des deux dernières semaines, c'est d'après les Nations Unies. RDC toujours, l'armée a déployé 600 à 800 hommes pour traquer des mineurs illégaux qui envahissent les concessions de l'entreprise chinoise TFM dans la province de Lualaba. TFM est une des plus importantes sociétés minières privées dans le sud-est du pays et affirme que plus de 10 000 mineurs artisanaux exploitent illégalement ces minerais de cuivre et de cobalt, occasionnant un manque à gagner. Au Burundi, l'organisation PARSEM, qui milite pour une bonne gouvernance, a été suspendue. Les autorités lui reprochent de ternir l'image du pays dans le but de troubler la paix et l'ordre public. Il s'agissait de la dernière organisation indépendante de la société civile encore active dans ce pays depuis qui est en crise depuis 2015. L'organisation avait lancé il y a peu une campagne donnant des chiffres sur la pauvreté à l'opposé du discours officiel. La majeure partie de l'Éthiopie était privée d'Internet ce mardi pour le 8e jour consécutif, à l'exception notable de la capitale Addis Abeba, une coupure que les autorités n'ont pas expliquée. Des millions de jeunes ruraux en Afrique subsaharienne risquent de devenir une génération perdue si les bailleurs de fonds et les gouvernements n'investissent pas dans les infrastructures, l'agriculture et l'agroalimentaire, avertit le Fonds international de développement agricole. Le nombre de jeunes ruraux va augmenter de 70% d'ici 2050 dans la région, souligne le FIDA. Algérie, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaït Salah, a mis en garde contre toute transition hors du cadre constitutionnel, estimant qu'elle aboutirait à la destruction des fondements de l'État. Il répond ainsi au mouvement de contestation qui réclame le départ du système au pouvoir, la mise en place d'institutions ad hoc chargées de réformer l'Algérie, et d'élaborer une nouvelle constitution, puis d'organiser un scrutin pour élire un nouveau chef de l'État. Maroc, la police antiterroriste annonce l'arrestation de 5 personnes soupçonnées d'avoir formé une cellule terroriste liée au groupe État islamique et planifiant des attaques d'envergure dans le royaume.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies réclame une enquête minutieuse et indépendante après la mort en Égypte du président déchu Mohamed Morsi. Le premier président élu démocratiquement d'Égypte a été enterré en catimini ce mardi. Le point avec Idriss Fall.
Toute mort subite doit être suivie d'une enquête rapide, impartiale, minutieuse et transparente menée par un organe indépendant afin de faire la lumière sur la cause du décès, a déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le porte-parole souligne que des inquiétudes ont déjà été soulevées sur ses conditions de détention et son accès à des soins médicaux. En mars 2018, une commission britannique dirigée par le député conservateur Crispin Blunt avait dénoncé le maintien à l'isolement 23 heures par jour de l'ancien président qui souffrait d'antécédents diabétiques et d'insuffisance rénale. Amnesty International et Human Rights Watch aussi réclament une enquête indépendante. Mohamed Morsi, 67 ans, a eu un malaise hier pendant une audience au tribunal, puis est mort à l'hôpital. Il a été enterré ce mardi en toute discrétion au Caire. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan lui a rendu hommage et des milliers de personnes ont participé à Istanbul à une prière à sa mémoire.
En Syrie, au moins 45 combattants ont péri aujourd'hui dans des affrontements entre les forces pro-régime et les djihadistes dans le nord-ouest du pays. Cela fait suite à une contre-attaque lancée à l'aube par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham dans le nord de la province de Hama. Les combats ont connu un répit ces dernières 24 heures après de violents affrontements samedi où plus de 35 combattants ont été tués dans les deux camps. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait cet après-midi en séance publique pour discuter de la Syrie. Ici aux États-Unis, Donald Trump lance officiellement sa campagne pour sa réélection ce soir à Orlando, en Floride. Le président républicain sait qu'il devra s'imposer dans le Sunshine State s'il veut décrocher un second mandat, comme ses trois prédécesseurs. John Hindon.
Quelques 20 000 personnes sont attendues dans l'Amway Center, enceinte de l'équipe de basketball des Orlando Magic. Les fake news n'en parlent pas, mais l'enthousiasme est au plus haut, a tweeté le président américain quelques heures avant de monter à bord d'Air Force One. À 73 ans et jamais aussi à l'aise que devant une large foule de partisans, Donald Trump entend réaffirmer sa volonté de se représenter. Aucun suspense sur le fond pour ce discours prévu à 20h GMT. Mais la marée de casquettes rouges Make America Great Again qui devrait l'accueillir lui donnera l'occasion d'être sous les feux de la rampe avant une séquence plus favorable à ses adversaires démocrates. Celui qui s'est présenté en 2016 comme le candidat anti-système et anti-élite semble déterminé à conserver le ton. Sur le bilan, Donald Trump devrait brandir les bons chiffres de ce qu'il appelle tout simplement l'économie Trump et agiter le spectre d'un scénario apocalyptique si un démocrate le chassait de la Maison-Blanche. Les anti-Trump entendent aussi donner de la voix avec plusieurs rassemblements prévue dans le centre-ville.
Le président américain Donald Trump a relativisé aujourd'hui la portée de l'attaque de deux tankers en mer d'Oman attribuée par Washington à l'Iran. Tout en réaffirmant la conviction des services des renseignements américains selon lesquels l'Iran est derrière ces attaques, il a insisté sur le fait que la région était moins stratégique qu'avant pour les États-Unis sur le plan énergétique. Et puis enfin, le président chinois Xi Jinping a plaidé en faveur de la coopération lors d'un entretien téléphonique aujourd'hui avec son homologue américain Donald Trump, confirmant qu'il le reconnaîtrait au sommet du G20 à Osaka fin juin, alors que les deux pays se livrent une guerre commerciale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
En République démocratique du Congo, l'armée a déployé environ 800 hommes pour traquer des mineurs illégaux qui envahissent les concessions de Tenke Fungurume Mining, une des plus importantes sociétés minières privées dans le sud-est du pays. L'entreprise chinoise Tenke dénonce régulièrement l'envahissement de ses concessions de cuivre et de cobalt par plus de 10 000 mineurs artisanaux qui y exploitent illégalement des minerais. L'Éthiopie va diviser Ethio Telecom, son fournisseur de télécommunications, en deux entreprises avant sa privatisation. Il y aura le secteur des infrastructures et celui des services. La semaine dernière, l'Éthiopie a adopté un projet de loi instituant un régulateur pour ce secteur afin d'attirer les investissements extérieurs. Terminons avec le Cameroun qui espère lever demain 20 milliards sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'opération se déroulera auprès de 17 spécialistes en valeur du Trésor et de 5 autres pays dont le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. L'objectif est d'être en adéquation avec les critères du FMI avec lequel le Cameroun est sous un programme triennal de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit.
Plein feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Michel Platini, placé en garde à vue.
L'ex-patron de l'UEFA a été placé en garde à vue à Nanterre dans le cadre de l'enquête pour corruption sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le parquet national financier a ouvert en 2016 une enquête préliminaire autour des conditions d'attribution par la FIFA des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. La justice française s'intéresse en particulier à une réunion secrète au Palais de l'Élysée le 23 novembre 2010 à laquelle ont participé Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar Tamim bin Ahmad Al Thani et Michel Platini, alors président de l'UEFA et vice-président de la FIFA. Les conseils de Platini ont indiqué qu'il ne s'agit en aucun cas d'une arrestation, mais d'une audition comme témoin dans le cadre voulu par les enquêteurs.
Préparation spéciale pour Sadio Mané en Égypte pour la CAN.
Le Sénégal, l'une des nations annoncées comme favorite de la CAN 2019, devra faire sans sa star suspendue pour son entrée en lice le 23 juin face à la Tanzanie. Sadio Mané, récemment sacré champion d'Europe avec son club Liverpool, a rejoint ses coéquipiers en Égypte mais s'entraîne à l'écart. Seydina Abagé, notre correspondant à Dakar, est présentement au pays des pharaons avec les lions de la Teranga. Il a suivi une des séances d'entraînement de Mané. Reportage.
La star des Lions a pris du retard dans la préparation à cause de la finale de la Ligue des Champions qu'il a disputée et gagnée avec Liverpool. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, il fait un travail physique pour se mettre au même niveau que ses coéquipiers. Sadio Mané n'a pas participé au match de ce dimanche contre le Nigeria. Il sera également absent lors du premier match de groupe du Sénégal car il doit purger une suspension d'un match pour cumul de cartons lors des éliminatoires. Et ce sont ces facteurs qui ont conduit Aliou Cissé à choisir Diao Baldé Keïta pour suppléer la star de Liverpool. Et il faut dire que le sociétaire de l'Inter de Milan s'est montré très en forme.
Athlétisme, Caster Semenya accuse l'I2AF de l'avoir utilisé comme rat de laboratoire.
La Sud-Africaine double championne olympique du 800 mètres accuse l'I2AF d'avoir expérimenté sur elle un traitement hormonal destiné à réduire son taux de testostérone. C'est ce qu'exige désormais le nouveau règlement de la Fédération de la part des athlètes hyperandrogènes pour concourir au niveau international du 400 mètres au 1000. Débouté par le TAS le 1er mai, Caster Semenya a depuis fait appel devant le tribunal fédéral suisse qui a suspendu de façon provisoire l'application du règlement pour la championne sud-africaine ans seulement.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En République centrafricaine, la capitale Bangui est frappée depuis plusieurs jours par une pénurie d'hydrocarbures. De longues queues de voitures, motos et personnes avec des bidons sont observées devant les stations-service. Une situation qui affecte non seulement les activités de la population, mais aussi l'économie du pays. Reportage de notre correspondant Freeman Sipila.
Cela fait deux semaines déjà que cette crise d'hydrocarbures perdure à Bangui et dans certaines villes du pays. Toutes les stations-service sont prises d'assaut, mais le carburant y coule à compte-gouttes. Pour s'en procurer, il faut passer des heures, voire toute une journée dans la queue. L'exaspération est grande chez les consommateurs.
On a fait des queues jusqu'à fatiguer.
C'est beaucoup difficile, surtout pour nous les taxis-motos. Et puis, vous voyez que les clients, en train de nous donner seulement 150 francs, 100 francs, pour faire 2, 3, 4 à 5 kilomètres.
Cette situation laisse libre cours à la spéculation. Des revendeurs occasionnels s'entendent avec les pompistes, achètent du carburant en grande quantité et revendent cher devant les stations. Jean Fernand est journaliste, il a aussi enquêté sur cette pénurie.
Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les vendeurs à la sauvette qui essayent de profiter de cette situation, eux, ils trouvent moyen, quelque part, de gérer directement avec les pompistes qui leur donnent parfois de carburant à quantité. Mais ces carburants qu'ils vont avoir entre les mailles, eux, ils vont faire de la spéculation. En quoi faisant ? En faisant un peu le mélange avec le pétrole pour avoir beaucoup plus de quantité que eux, ils vont revendre encore plus cher.
L'Observatoire centrafricain des consommateurs monte au créneau et appelle à la fermeté contre les marketeurs, c'est-à-dire ceux qui approvisionnent le pays en carburant. Marcel Mokwapi, son président.
Dans nos renseignements, nous savons qu'il y a suffisamment de carburant donc au dépôt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une politique de surenchère ou de pénurie provoquée. Est-ce que c'est de connivence avec les vendeurs ambulants? Est-ce de connivence? Est-ce que les autorités le savent? Ils le savent. Pourquoi ils ne tapent pas sur la table? C'est ça leur devoir.
À l'origine de cette crise, un incendie survenu le 31 mai dernier à la raffinerie de Sonata à Limbé au Cameroun, une des principales voies de ravitaillement de la République centrafricaine en hydrocarbures. Ne voulons pas parler d'une pénurie, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique annonce des mesures pour ravitailler la capitale. Herbert Gontron, Jono Abba.
Des actions sont en train d'être menées pour permettre aux marketeurs de continuer à assurer l'approvisionnement régulier du pays. Une cargaison de 3000 mètres cubes contenant du super, du jet A1 et du gasoil est en chargement à 7 Congo, Kinshasa, pour la remonter sur Bangui. Aussi, les commandes faites avant l'incendie de Sonara continuent d'être acheminées sur Bangui par camion-citerne.
Le député de l'opposition André Nalké Dorogo exige une enquête parlementaire car pour lui, la loi sur le stockage des produits pétroliers n'est pas respectée.
La représentation nationale qui est chargée du contrôle de l'action du gouvernement au travers de la commission production, ressources naturelles, développement durable et environnement, cette commission devra se saisir ou bien s'auto-saisir pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire afin que rapport soit produit et mis à la disposition de l'opinion nationale, notamment du peuple centrafricain.
Plusieurs activités sont au ralenti à Bangui en raison de cette pénurie. La population appelle les autorités à vite décompter la situation. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
La semaine dernière, le virus Ebola, qui sévit en République démocratique du Congo, a fait son apparition en Ouganda. Depuis, il a non seulement fait 2 victimes, mais pratiquement arrêté le commerce transfrontalier entre les deux pays. Halima Atoumani s'est rendu à Kasese, à la frontière ougandaise. Son reportage est rendu par Lionel Gaïma.
Depuis 15 ans, l'homme d'affaires Peng Ekis vend en République démocratique du Congo du poisson du lac Albert en Ouganda. Mais depuis une semaine, il dit n'avoir guère d'autre choix que de rester en Ouganda à cause de l'épidémie Ebola le long de la frontière.
À Kinshasa, nous ne connaissons pas le virus Ebola. Mais quand vous venez ici à la frontière, c'est toujours laver les mains, laver les mains, laver les mains. Et quand je suis arrivé ici, Nous avions travaillé 3 jours. Au Congo, le commerce est mort. Ils disent qu'il y a Ebola, alors nous devons attendre que ça passe. Car même les banques sont fermées.
Farouk Ayoub est conducteur de mototaxi. La peur du virus Ebola l'empêche de se rendre au Congo.
Normalement, nous transportons principalement des Congolais. Nous les prenons au Congo pour les amener en Ouganda. Mais nous avons peur de l'Ebola. Maintenant, nous nous demandons comment on peut nous aider et comment nous protéger contre le virus Ebola.
Raphaël Masereka, homme d'affaires ougandais, explique que ses collègues et lui exhortent les gens à ne pas serrer la main aux marchands venus de la RDC. Le virus Ebola se transmet par contact avec des fluides corporels des personnes malades. La Croix-Rouge ougandaise est chargée de dépistage du virus à tous les points d'entrée des personnes venant de la RDC. Pour Natukunda Primrose, directrice de la Croix-Rouge, le danger vient de ceux qui franchissent la frontière sans passer par les postes de contrôle sanitaire.
Ainsi, vous ne savez pas s'ils ont été en contact avec une personne porteuse du virus Ebola, qui a peut-être assisté à un enterrement, ou peut-être si, à travers des activités commerciales, ils ont touché une personne malade de l'Ebola.
Les troupes ougandaises postées le long de la frontière ont reçu mandat de contrôler le trafic d'armes et des munitions, mais ne sont pas préparées à faire face, encore moins combattre le virus Ebola. Benjamin Sensasi, chargé de communication de l'Organisation mondiale de la santé.
Ils seront vaccinés si nous arrivons là où ils sont. Le seul défi, c'est le suivi. Et nous essayons d'y travailler. Une fois que vous recevez le vaccin, nous devons vous suivre un bout de temps pour nous assurer que tout va bien et que vous n'avez aucun problème.
Les commerçants le long de la frontière espèrent que les mesures prises suffiront à enrayer la propagation du virus Ebola pour que la vie puisse reprendre son cours normal.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la situation des réfugiés dans le monde à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée le 20 juin de chaque année. Plus de 25 millions de personnes sont forcées de quitter leur pays pour s'installer dans un autre. Les guerres, les violences et la persécution sont les principales causes de ces déplacements de population constitués pour une bonne partie de jeunes et de femmes. Leurs conditions de vie dans les camps, leur insertion dans leur pays d'accueil, leur prise en charge sont autant de questions que nous aborderons avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Et nous partons dans l'état de Benue au Nigeria pour redécouvrir ou redécouvrir une boisson locale qui fait beaucoup parler d'elle, le burukutu, une boisson alcoolisée traditionnelle. Reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
Issu de la fermentation naturelle du sorgho et du millet, ce vin local appelé burukutu est un ingrédient indispensable à la vie sociale à Benue. Pour certains, il est aussi indispensable lors des mariages et des concerts. D'autres le consomment pour ses nombreuses vertus. Christiane Nweze est âgée de 38 ans. Elle réside dans le quartier de North Bank, dans la banlieue de Makurdi, la capitale de l'état de Benue. La production de ce vin local est devenue son activité principale depuis 5 ans.
Nous produisons le burukutu à partir du sorgho. Nous le mettons dans l'eau et après quelques jours, nous obtenons une germination du sorgho. Ensuite, on le transforme en pâte à l'aide d'une machine avant de le faire bouillir au feu. Nous prenons soin de ne pas y ajouter des produits chimiques. On le laisse naturel.
Malgré sa haute valeur nutritionnelle, le burukutu était surtout jusqu'ici consommé par les personnes âgées et les moins privilégiées de la société en raison de la manière peu hygiénique dont il est conservé. Mais récemment, la situation a changé. À cause des difficultés économiques, riches et pauvres, jeunes et vieux utilisent maintenant cette boisson. Seule une minorité est capable de s'acheter de la bière. Godwin Tchokohod est un habitant de Benue. Il nous parle des avantages économiques de burukutu. Burukutu. Les avantages économiques du Burukutu sont multiples. Vous avez vu qu'elle vient de nous servir dans un gobelet qui mesure 4 litres. C'est pour plusieurs personnes. On a partagé ça entre nous. Je ne peux pas partager une bouteille de bière avec mes amis. Mais les 4 litres qu'elle nous a donnés peuvent être partagés entre 10 à 20 personnes. Donc cette boisson est plus économique que la bière. De l'avis des médecins, une consommation abusive de cette boisson peut avoir des effets néfastes. Mais certains y voient surtout des aspects bénéfiques. C'est le cas de Dibora Emmanuel Doshima.
It can cure some disease in the body like fever.
Ce vin nous aide à soigner certaines maladies comme la fièvre. C'est aussi économique et en plus c'est un bon remontant. Lorsque vous le prenez, vous ne vous sentez pas drogué comme avec les autres produits alcoolisés, mais vous vous sentez physiquement très en forme.
Le Burukutu, qui fait partie de la culture locale, gagne de plus en plus le cœur des populations de Benue, mais aussi d'autres États du Nigeria. Gilbert Tamba, à Benue, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington. Après un conflit vieux de près de 10 ans, le fisc américain a finalement donné raison aux Américains accidentels. Ils sont nés par hasard aux États-Unis, mais ont jamais vécu dans ce pays. Ils sont contraints de payer les taxes en tant qu'Américains. Les États-Unis admettent avoir collecté à tort des millions de dollars d'impôts auprès des citoyens américains résidant en France. Environ 100 000 personnes sont concernées par cette décision. Pour en parler, John Lindon, agent à Paris, Fabien Léagre, fondateur du collectif français des Américains accidentels.
C'est la fin d'une saga juridique qui a duré effectivement 10 ans, et le fait que l'IRS reconnaisse enfin que pendant des années ils ont mal interprété une convention bilatérale, eh bien c'est un grand soulagement puisque ça va permettre effectivement à des milliers de personnes, que ce soit aux États-Unis mais aussi en France, eh bien de pouvoir demander le remboursement d'impôts qui ont été indûment collectés par l'IRS.
Justement, j'allais vous demander si cette agence sera remboursée. Vous dites oui. Quelles seraient les démarches à entreprendre pour rentrer dans ces fonds pour ceux des Français qui ont été taxés doublement?
Là, au niveau des démarches pour pouvoir réclamer le trop perçu par l'IRS, il va falloir que ces personnes se rapprochent soit de CPA, soit d'avocats fiscalistes, afin d'estimer le montant qui a été indûment perçu par l'IRS. Voilà. Après, le mieux, c'est de se rapprocher pour le coup d'un professionnel.
Pour ceux qui n'ont pas suivi ce feuilleton, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui bloquait? 10 ans d'une affaire, c'est quand même beaucoup, non?
Il y a eu différents rebondissements juridiques dans cette affaire. Pendant un certain nombre d'années, l'IRS est resté campé sur ses positions en ne considérant pas la CSG et la CRDS comme étant un impôt, considérant ça comme des charges sociales. Parce qu'en fait, il y avait une mauvaise interprétation d'une convention bilatérale. Donc, suite à différents rebondissements judiciaires, il y a eu une communication de la part du département d'État, suite à un certain nombre de correspondances diplomatiques entre la France et les États-Unis, pour admettre que la définition à prendre en compte était bien celle de la France.
Est-ce que vous avez des exemples d'autres pays en dehors de la France qui sont dans la même situation?
La problématique de la CSG-CRDS, ça vient régler un problème principalement pour les Américains expatriés en France. Des personnes françaises qui sont nées aux États-Unis, donc là on parle plus des Américains accidentels, oui, il y en a dans le monde entier pour le coup. Mais on reste confronté à un problème plus global qui est le problème du FATCA, cette loi américaine qui oblige les banques à nous identifier et à transmettre nos informations bancaires, et au problème de la citizenship-based taxation, qui est le fait que les États-Unis ont une fiscalité basée sur la nationalité et non sur la résidence. Donc ça, c'est un problème plus global contre lequel l'Association des Américains accidentels que je préside a vocation à se battre.
Voilà, c'était Fabien Léagre, fondateur du collectif français des Américains accidentels. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Thiro, à la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.